De retour après la pause, je suis en compagnie de Mme Véronique Laflamme, porte-parole pour l'équipe du Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU. Bonjour Mme Laflamme, comment allez-vous?
Bonjour, ça va bien, merci. Vous?
Ça va bien, mais le logement, ça va vraiment pas bien. Il y a deux nouvelles qui ont retenu notre attention au courant du mois de janvier. On va parler des Airbnb tout à l'heure, parce que ça fait juste jeter l'huile sur le feu, mais c'est surtout le rapport de la SCHL qui a été rendu public la semaine dernière qui retient l'attention.
Oui, vraiment. Même si on se demande parfois si ça peut encore se détériorer, les dernières données de la SCHL démontrent très bien que la crise du logement vécue par les locataires continue de s'approfondir à deux niveaux. La rareté de logements locatifs qui s'étend encore, c'est le plus bas taux d'inoccupation depuis 2004 pour l'ensemble de la province, et les prix continuent de monter très, très rapidement. On voit, par exemple, dans le cas de Montréal, la plus forte hausse des loyers, dans le cas des loyers existants, là, du loyer moyen, dans plusieurs villes, c'est également très, très élevé. Et quand on inclut dans le portrait les logements récemment construits,
c'est pire.
C'est encore plus gros, c'est pire. Alors, le loyer moyen monte en flèche et dans un contexte de rareté, malheureusement, les protections insuffisantes font en sorte là qu'il y a beaucoup d'abus, à la fois dans les logements existants. Du côté du neuf, ben ça n'offre pas grande réponse aux locataires qui sont en recherche de logements et dont le revenu ne permet pas de se payer.
Parce que moi, je voyais les statistiques d'une région à l'autre. À Gatineau, c'est incroyable. On est rendu à 0,08% d'inoccupation avec des loyers qui ont monté de plus de 20%. C'est énorme. Et comme vous le dites, c'est pas le libre arbitre du marché qui va résoudre le problème parce que la rareté va simplement faire augmenter le prix de ce qui est disponible encore. Et les logements les plus difficiles à trouver à ce moment-là, ben ça devient les logements qui devraient être abordables, mais qui ne le deviennent plus.
Exactement. Il y a d'ailleurs un effritement du parc de logements locatifs encore abordables. Entre les deux derniers recensements, à Montréal seulement, il y a près de 90 000 logements locatifs à moins de 750 $ qui ont été perdus. Perdus pour différentes raisons. Airbnb, dont on va parler plus tard, peut y contribuer, mais notamment parce que les prix augmentent rapidement. Et ce que montre le rapport de la SCHL de la semaine dernière, c'est que les logements qui correspondent à la capacité de payer des ménages locataires à faible et modeste revenu, ce sont les plus rares. Et dans le cas de Montréal, quand on regarde les taux d'inoccupation pour des logements de moins de 1 000 c'est moins de 1 %. Oh. Et ce qui est inquiétant également, c'est que dans plusieurs villes considérées comme encore abordables, où jusqu'ici les loyers étaient vraiment moins chers, dans des régions comme la Mauricie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, l'Estrie, eh bien là, les loyers aussi augmentent rapidement. Et il faut se rappeler que dans plusieurs villes, ben des fois les loyers sont moins chers, mais les locataires sont beaucoup plus pauvres aussi, je pense à la Mauricie.
Oui.
Et là, ça fait très, très mal. Cette rareté vient aussi avec une spéculation immobilière qu'on a vue là s'intensifier dans les dernières années, non plus seulement dans les grandes villes, mais également dans ces plus petites municipalités. Et il y a vraiment des investisseurs qui achètent des immeubles dans l'objectif de faire plus de profits et qui contribuent là à cette hausse rapide des loyers. Donc, c'est extrêmement inquiétant avec ces taux d'inoccupation qui ont baissé encore et qui avoisinent le 0 % dans des villes comme Granby, Alma, Drummondville, Gaspé. Vraiment, là, le portrait n'est pas rassurant et justement, comme vous disiez, le fait que les protections soient largement insuffisantes, ajoute à l'inquiétude des locataires. Finalement,
parce que le marché laissé à lui-même va continuer à favoriser la création de logements qui sont plus chers et qui sont, du point de vue du promoteur indépendant, plus rentables. Donc, pour créer un parc de logements disponibles et abordables, il faut qu'il y ait une intervention du gouvernement. Mais là, on est dans un grave déficit depuis plusieurs années sur le nombre de logements abordables qui devraient être créés.
Oui, on a un déficit. Même l'ONU, le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, dans son dernier rapport, et là ça date déjà de 2016, constatait une pénurie de logements sociaux au Québec et au Canada. Donc, c'est pas nouveau.
L'ONU nous a pointé du doigt. Il n'y a pas de quoi être fier.
dans son rapport sur les droits économiques, sociaux et culturels au Québec et au Canada, ben oui, parce que il y a eu tellement peu d'investissements depuis le retrait du fédéral dans les années 90. On n'a jamais rattrapé le retard qui était causé par la fin des investissements à long terme de la part du gouvernement fédéral. Le Québec a pris le relais avec son propre programme, le programme Accès Logis, mais oui, en n'investissant jamais les mêmes sommes que le fédéral y consacrait auparavant. Et là, depuis 10 ans, on a sous-investi dans ce programme-là qui avait réussi quand même à prendre le relais un peu en finançant des coopératives, des organismes sans but lucratif et même des logements publics gérés par les offices, ce qui n'a pas été le cas dans plusieurs provinces. Mais comme on a tranquillement sous-investi dans ce programme-là, en n'y prévoyant pas un nombre suffisant d'unités budget après budget et qu'on ne l'a pas indexé, on est arrivé avec un énorme retard à rattraper. Et non seulement on ne livrait pas les logements promis et budgétés, mais en plus, dans le dernier mandat caquiste, il y a eu très, très peu d'investissements pour de nouveaux projets. On parle de 500 pour tout le Québec en 4 ans.
C'est rien, 500. Mais est-ce que c'est raisonnable de dire qu'aujourd'hui, en ce moment, dans le marché actuel, il manque au moins 50 000 logements?
50 000 logements sociaux, assurément. Oui. Et pour nous, c'est une première étape, hein, parce que souvent les gens nous disent, ben, vous demandez 50 000 logements sociaux, le FRAPRU, c'est pas suffisant. Effectivement, quand on regarde le nombre de ménages locataires qui ont des besoins impérieux de logements, selon Statistique Canada, 177 000 ménages au Québec sont dans cette situation-là. Oh,
ça, c'est 177 000 logements.
Pardon?
C'est 177 000 logements. Autant, chaque ménage est un logement.
Ben, chaque ménage aurait besoin d'un logement décent. On parle de gens qui vivent dans un logement insalubre, trop petit pour leur famille, trop cher. Et si on regarde ceux et celles qui sont en attente pour un logement à prix modique, il y en a 38 000, mais on sait que plusieurs ne s'y inscrivent pas, sachant que les délais d'attente sont très longs. À Montréal, par exemple, le délai d'attente est en moyenne de 5 ans. Donc, et plusieurs n'y sont pas admissibles parce que les logements à loyer modique sont destinés aux ménages à faible revenu, c'est parfait, mais nous, quand on revendique un grand chantier de logements sociaux, on revendique aussi d'autres formes de logements sociaux hors marché privé qui s'adressent aussi aux ménages à revenu modeste, donc qui sont pas assez pauvres pour être subventionnés, mais qui auraient besoin d'un logement qui est moins cher que sur le prix du marché. Et c'est à ces besoins-là que répondent cette variété de logements sociaux qui sont finançables dans notre programme au Québec, le programme Accès Logis, celui-là même dans lequel on n'investit plus.
Le programme existe, mais il fait rien parce qu'il faut qu'il y ait une volonté politique. Parce que si on regarde le prix exigé, le loyer moyen des appartements, 2 chambres à coucher, 9, ben là, on part à 2 000 $ à Montréal. Ça, c'est 24 000 $ par année après impôt. Puis on n'a pas encore mangé. Et dans ce sens-là, on rejoint un peu la problématique de l'insuffisance alimentaire dont on parlait ici il y a 2 semaines. Que ce soit le logement ou la nourriture, imposer aux gens de faire un choix entre les deux, là, c'est pas une société qui est ouverte et qui est accueillante là, dans ces conditions-là. On va parler brièvement des Airbnb, parce que ça, non seulement ça fait du bruit dans le voisinage, là, puis ça je dirais, enquiquine les voisins, ça c'est une chose, mais en plus, ben, ça retire des logements du système.
Oui, et ça contribue à cet effritement du parc de logements locatifs encore abordables. Quand ces logements-là, même s'ils reviennent sur le marché, par exemple parce que des logements illégaux sont finalement détroussés, ces logements-là ne reviennent pas au prix où ils étaient. Encore là, c'est l'appât du gain. On voit des propriétaires qui, finalement, dans certains cas, transforment illégalement leur logement en Airbnb. À Montréal, je regardais les plus récents chiffres. Malheureusement, on n'a pas les plus récents chiffres pour toute la province, mais en décembre, il y avait près de 11 000 logements entiers affichés sur la plateforme Airbnb pour Montréal. 11 700 logements entiers affichés à Montréal. Et la majorité de ces logements-là sont affichés par des multilocateurs. Donc, on n'est pas là dans l'économie du partage où quelqu'un s'en va en vacances une semaine et affiche son logement. Là, on est dans une business, hein, où les gens, dans le fond, affichent des logements pour faire du profit.
Ben, ils ont un parc immobilier, puis au lieu d'offrir des loyers à des familles qui voudraient y résider à l'année longue parce que ce serait chez eux, ben, ils transforment tout ça dans une sorte de Uber de l'hôtellerie.
Ouais. Et ça fait très mal dans plusieurs régions qui ont subi un attrait là, nouveau là, durant les premières vagues de la pandémie, entre autres dans les Laurentides, dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie aussi, dans la Naudière. Donc, c'est des régions où la rareté de logements locatifs est plutôt nouvelle, qui n'a pas un immense parc de logements locatifs, et parfois des régions où c'était des petites maisons qui étaient louées par les locataires de longue date, et là où des gens les achètent pour pouvoir les louer sur Airbnb. Donc, tout ça fait très, très mal et contribue à cette perte de logements locatifs encore abordables qui ne reviennent plus une fois qu'on les a perdus. Si un jour ils reviennent sur le marché locatif,
oui, si jamais ils reviennent,
ça ne sera pas du tout au même prix.
Et ce qui vraiment la goutte qui fait déborder le vase, c'est qu'il y a une loi au Québec qui, à partir du 25 mars, va rendre la pratique du Airbnb un petit peu plus blindée.
Oui, mais jusqu'à maintenant, les règlements insuffisants n'ont pas suffi à décourager les gens pour qui c'est une business. On voit des règlements qui sont contournés. Il y a plusieurs villes, il y a des secteurs, des zonages où ce n'est pas permis. Parfois, les villes ont restreint même là au maximum ces secteurs-là, mais on voit que ça continue d'être contourné. Donc, il y a beaucoup d'herbiers illégaux. On verra ce que fera la nouvelle réglementation. Les villes peuvent aller encore plus loin que la réglementation québécoise, mais elles doivent procéder par un référendum.
Oui, et bien, c'est l'idée justement du référendum. Ça fait un obstacle de plus d'un point de vue administratif. Alors, ça décourage un peu l'application d'un règlement plus sévère. Quand je disais que l'application à partir du 25 mars rendrait le Airbnb blindé, c'est qu'entre guillemets, indirectement, ça revient à protéger cette industrie.
Bien, ce qu'on avait déploré lors des consultations sur ce nouveau règlement-là, là, qui se sont tenues il y a déjà longtemps, faut-il le rappeler, là, il y a eu des grands délais avant que le nouveau règlement entre en vigueur déjà. Nous, on aurait souhaité que ce soit interdit par Québec ou du moins que les municipalités puissent interdire. Donc, finalement, elles pourront interdire, mais on leur impose de procéder par référendum. Donc, on a encore là, encore une fois, cette impression que le gouvernement est plus préoccupé par le sort des investisseurs, du développement économique, que de l'impact, finalement, sur les locataires et sur le tissu social.
Ben, moi, je fais un parallèle qui est peut-être pas le bon, mais moi, ça me rappelle un peu ce qui est arrivé quand Uber, comme système de voiturage, s'est implanté au Québec. Et là, il y avait un conflit avec l'industrie du taxi. Finalement, la loi a fait en sorte que Uber a prévalu, que l'industrie du taxi a perdu beaucoup, beaucoup de chauffeurs et ça a eu un impact assez malheureux sur le transport adapté. Alors, voilà. Donc, maintenant, la réglementation au sujet de Airbnb risque d'avoir un impact sur le logement abordable.
Bien, il faut se préoccuper à tous les niveaux de tous les logements qu'on peut perdre. Il faut protéger le parc de logements locatifs par tous les moyens. Et on a l'impression que ce n'est pas dans les priorités, dans les principales préoccupations du gouvernement lorsqu'il change des projets de loi, lorsqu'il adopte de nouveaux règlements. Et dans ce cas-là, quand on a des petits parcs de logements locatifs, là, un Airbnb de plus est un Airbnb de trop. Donc, il faut vraiment se donner les moyens d'agir à tous les niveaux.
S'il y a une hésitation à investir beaucoup d'argent dans la création de nouveaux logements, de protéger ceux qui existent semblerait plus économique. Donc, ce serait le premier geste à poser.
Assurément, parce que on perd plus de logements abordables qu'on en construit. Et ceux dits abordables qu'on construit ne le sont souvent déjà plus quand on regarde.
Ça veut dire que le prochain rapport de la SCHL risque de nous dresser un portrait plus sombre encore. Ben, merci beaucoup, Mme Laflamme, d'être venue nous en parler. On espère ne pas que prêcher à des convertis. On espère qu'il y a une écoute gouvernementale. Il n'y a eu aucune réaction au rapport de la SCHL?
Il y a eu quelques réactions de la ministre de l'Habitation, notamment dans les pages de la presse et du Devoir, mais de tout petites réactions. Par contre, ce qu'on a l'impression dans les réponses données par la nouvelle ministre de l'Habitation, c'est qu'on va régler le problème par l'offre. D'accord. Et il faut faire très attention parce que d'abord, quand on nous dit qu'on va régler le problème par l'offre, on nous dit si on construit des dizaines de milliers de logements, ça va finir par s'équilibrer et les prix vont redescendre. D'abord, on n'a jamais vu les prix redescendre. D'autre part, le privé trop cher construit contribue actuellement au problème d'inabordabilité, peut-être qui peut faire augmenter un peu les taux d'inoccupation, mais on l'a vu à Montréal l'an dernier, même avec un taux d'inoccupation en haut de 3 % qui soit disant qui est le seuil d'équilibre du marché, là, on a vu des dizaines de ménages locataires sans logis incapables de se reloger autour du 1er juillet parce que les logements disponibles étaient trop chers. Donc, construire pour construire, pour nous, ne réglera pas le problème. Oui, il faut augmenter l'offre, mais s'il y a de la construction privée, qu'on ne doit pas subventionner avec les fonds publics, à notre avis, là, il faut investir les fonds publics
parce que
dans le secteur.
En soi, l'entreprise privée n'investira pas dans des logements abordables parce que ce n'est pas rentable. Alors,
ben,
voilà. Donc, la solution ne doit pas venir de ce côté-là. Et deuxièmement, si le taux d'occupation, le taux d'inoccupation, disons, augmente un peu, soit, mais ça ne veut pas dire que le taux d'inoccupation des logements dans le quart inférieur le plus abordable en termes de prix, lui, soit à niveau. Il va y avoir beaucoup de logements chers disponibles et toujours, encore une fois, peu de logements abordables disponibles. Alors, ça ne règle pas vraiment le problème de. D'un point de vue théorique, c'est bien de dire ça comme ça, mais dans la pratique, ça ne marche pas tout à fait.
Ben, c'est pas du tout. C'est pour ça qu'il faut augmenter rapidement le parc de logements hors marché privé. Si on veut réellement régler le problème, il faut augmenter au même rythme et même plus rapidement le parc hors marché privé pour qu'il occupe un pourcentage plus important sur le parc de logements locatifs. Et actuellement, c'est 10 % et ça, on voit tout de suite pourquoi il y a un problème. C'est que les gens n'ont pas d'alternative quand ils sont forcés de déménager et qu'il n'y a rien à leur porter. Finalement, ces logements sociaux-là qui devraient constituer notre filet social ne sont pas disponibles quand on en a besoin parce qu'on n'en a pas suffisamment.
Tout à fait. Ben, je vous remercie, Mme Laflamme. On va se reparler de tout ça, c'est sûr, parce que c'est un sujet qui ne s'en ira pas, qui ne disparaîtra pas de lui-même.
Alors, malheureusement, non.
Malheureusement, mais on va encore en parler. C'est la seule façon, c'est d'en parler. Ben merci. À bientôt.
Merci de l'invitation. Au revoir.